Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Et donc Cédric, je rappelle que la commission d'enquête du Sénat a pointé la responsabilité du numéro 2 du ministre de la Santé, Jérôme Salomon, dans la pénurie de masques. Et ça a été effectivement le feuilleton du printemps, alors qu'il s'établissait à 754 millions d'unités fin 2017. Le stock stratégique n'en contenait plus que 100 millions fin 2019. Et c'est Jérôme Salomon qui avait pris cette décision, ou qui aurait pris cette décision d'une manière unilatérale. Et puis le journal Le Monde révèle également dans son édition à paraître aujourd'hui qu'il aurait fait pression pour modifier un rapport d'experts recommandant au gouvernement d'avoir à disposition 1 milliard de masques en cas de pandémie, alors que lui-même venait d'en commander seulement 100 millions. Cédric, votre avis ?
Oui, bonjour. J'ai envie de vous dire, s'il n'y avait pas eu cette pandémie et qu'on se retrouvait avec 2 milliards de masques, est-ce que là, il n'y avait pas un scandale ? Et tous les autres pays il n'y a pas que la France, tous les autres pays se sont retrouvés comme nous. Personne n'avait de masque. Donc, au final, pourquoi on pointe Jérôme Salomon du doigt et pourquoi plus globalement, on pointe toujours la France, le gouvernement, on n'avait pas de masque. Personne n'avait de masque. Pourquoi on devrait avoir tout le temps 2 milliards de masques, par exemple, s'il n'y a pas de pandémie? Et ça ne serait pas un scandale. Et là, ça ne serait pas de l'argent public qui serait gaspillé dans d'achats de masques au cas où. Moi, je ne suis pas d'accord d'acheter. Pourquoi on achèterait tout le temps 2 milliards de masques au cas où? Pendant des années, on n'a rien eu. Et ça se trouve, on avait des masques. Pour moi, c'est un scandale.
J'entends ce premier aspect du dossier, ça peut se plaider, mais je répète, selon les informations du Monde, la commission d'enquête du Sénat s'est procuré un échange d'emails entre le directeur général de la Santé et Santé publique France, attestant de pression pour empêcher la publication d'un rapport d'expertise établissant que la France aurait dû avoir à sa disposition 1 milliard de masques.
Oui.
Donc ça, c'est encore autre chose.
Ça, je l'entends aussi. Effectivement, là,
Est-ce qu'il a fait pression pour modifier un rapport d'expert? Parce que vous voyez, il y a deux aspects.
Mais est-ce qu'il a fait pression? Vous, comme moi, on ne le sait pas, Pascal.
C'est pour ça que la commission d'enquête du Sénat s'est procuré cet échange d'emails entre le directeur général de la Santé et Santé publique France et qui atteste de pression.
Oui.
C'est ce que révèle Le Monde aujourd'hui.
Oui. Après, on est toujours avec le monde des médias et tout. Moi, je suis mitigé.
Le monde des médias, c'est drôle comme expression. C'est quoi le monde des médias? C'est nous? C'est vous?
C'est tout le monde, Pascal.
Mais oui.
On a tous notre avis et chacun donne sa vérité.
Enfin, s'il a fait pression, c'est quand même un peu ennuyeux, si vous me permettez. Là, je donne l'avis que tout le monde doit avoir en entendant cela. S'il fait pression pour empêcher la publication d'un rapport d'expertise qui montre que la France doit avoir à sa disposition 1 milliard de masques, c'est ennuyeux. Qu'il se trompe déjà, qu'il ne renouvelle pas, c'est ennuyeux. Si en plus il fait pression, c'est ennuyeux.
Ah oui, mais effectivement, s'il a fait pression, je veux dire, si de toute façon, s'il s'est prouvé qu'il a fait pression, comme dans tous les dossiers où quand on fait pression, à un moment donné, il ne pourra pas rester en poste.
Bon, Philippe est avec nous également. Bonjour Philippe, qui habite Valenciennes, sur ce sujet qui va forcément monter, parce que vu sa place, c'est le numéro 2 de la santé, celui qui est avec Olivier Véran aux commandes quasiment de l'épidémie, et puis son visage est connu puisqu'il intervient régulièrement pour donner des nouvelles, et généralement pas des bonnes. La question de sa place va se poser. Bonjour Philippe.
Bonsoir, bonjour Pascal. Bonjour. Qui rend les clés, au revoir.
Comme ça vous êtes direct. Pourquoi?
C'est très simple. 2018, ils s'aperçoivent que le stock des masques est de 100 millions. Le rapport précise qu'ils en auraient besoin d'à peu près 1 milliard, d'après les derniers chiffres, à raison de 50 masques par famille, de façon à répondre à une épidémie de grippe, pas une épidémie de coronavirus, on est bien d'accord. Sauf que pour répondre à cela, il faut l'argent. Et les caisses de l'État étant ce qu'elles sont, l'argent, s'ils peuvent l'économiser, ils font tout pour. Sur ce, est produit un rapport qui explique qu'en fin de compte, il faut ces masques-là. Et pour éviter de répondre à cela, Monsieur Salomon fait pression sur ce rapport pour mettre des chiffres beaucoup plus bas, de façon à justifier que ce n'est pas une nécessité de pouvoir faire du stockage. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le virus arrive. Et pour pas désavouer Monsieur Salomon, Monsieur Olivier Véran nous fait un discours en nous disant « Je veux pas dire que les masques sont une nécessité dans la mesure où j'ai pas le stock pour répondre à cela. » Donc il nous fait le discours en nous disant « Les masques ne sont pas nécessaires. » qu'on n'a pas besoin d'avoir des masques par rapport à l'épidémie qui arrive en Chine et qui pourrait être possible d'arriver en Europe. 6 mois plus tard, revirement de la situation, les masques deviennent une obligation, une nécessité. Entre-temps, évidemment, ils ont refait du stock. Donc ils savaient très bien ce qui se passait sur le point de vue de la réserve. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas générer autant de finances et de dépenses financières pour répondre à une hypothétique épidémie, alors que le rapport le précisait. Il n'allait pas désavouer M. Salomon par rapport à cette situation. Les deux savaient la situation. Les deux, M. Salomon a fait pression et les deux ont couru dans cette orientation en disant que ce n'était pas une nécessité. Ces personnes-là doivent partir, elles ne doivent pas rester. Comment voulez-vous que derrière la population, vous, moi, nous tous, pouvons avoir une position positive vis-à-vis de telles démarches et que ces personnes-là deviennent crédibles? Ce n'est plus possible. Et on est dans un état de uberrois, c'est-à-dire chacun se donne, comme disait votre auditeur précédent, son petit avis, c'est clair. Sauf que là, maintenant, on a des informations qui justifient que, par échange de mails, il y a bien eu pression quelque part. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Qui rend les clés et au revoir, on passe à autre chose. On ne peut pas se permettre de garder des personnes qui, en permanence, nous racontent blanc un jour et noir le lendemain. Ce n'est pas possible. Déjà, les gens, vous interrogez les gens, ils ne savent plus. Il faut mettre le masque, il ne faut pas mettre le masque, il faut faire ci, il faut faire ça, puis une dérogation un jour, puis une autre dérogation un autre jour. Ça devient Kafka. On est dans un délire total.
Ben merci Philippe et Cédric qui ont deux avis différents sur ce sujet. Vous allez pouvoir évidemment nous appeler. On pourra parler également du vaccin parce qu'il y a une forme de doute aujourd'hui avec les déclarations notamment d'Éric Combes. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La commission d'enquête du Sénat sur la crise du Covid-19 pointe la responsabilité du numéro 2 du ministre de la Santé, Jérôme Salomon, dans la pénurie de masques. Et cette histoire est quand même très délicate, réagit Patrick sur nos réseaux sociaux. Comment a-t-on pu en arriver là? Nous aurions dû avoir le nombre de masques nécessaires, ajoute Thierry. Ah, c'est du bon sens, quelle gestion catastrophique. Il doit démissionner, s'énerve Véronique à l'instant, il n'est plus crédible. Pour moi, il a perdu cette partie de poker. Et dire qu'il est directeur général de la santé, soupire Jean-Pierre, on parle de notre stock stratégique. Et pour Hubert, avec des masques, dès le début de l'épidémie, on aurait limité, je pense, le nombre de contaminations.
Pour que les choses soient claires, on apprend deux choses aujourd'hui. D'abord qu'effectivement, Jérôme Salomon a pris la décision de diminuer le nombre de masques. Mais surtout, j'ai envie de dire, en août 2018, il y a un rapport d'experts qui préconise, en cas de pandémie, 1 milliard de masques pour la France. Et quand la pandémie arrive, ou même quelques jours peut-être avant, Jérôme Salomon va tout faire pour que ce rapport d'experts passe à la trappe, qu'il ne soit même plus mentionné dans les documents. Donc c'est ça qui, effectivement, qui a été révélé ces dernières heures et qui peut interroger. Nous sommes avec Pascal, avec un E à la fin. Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal, quel joli prénom.
Mais à chaque fois je le dis, nous sommes des enfants des années 60 parce qu'il y en a très peu avant et il y en a quasiment plus après.
Voilà.
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est pas le sujet.
Oui, voilà. Ma réaction, comme d'habitude en France, on va jouer le fusible, c'est-à-dire que M. Salomon devient le fusible. Moi j'aurais voulu savoir si la décision qu'il a prise en 2018 était en accord avec Mme Buzyn. Parce que Madame Buzyn, on l'a débarqué, on a vu qu'il y aurait peut-être de la casse, donc on l'a débarqué juste avant le gros problème. Le virus commençait à peine, on l'a débarqué pour qu'elle aille se faire élire à Paris alors qu'elle avait aucune chance. Monsieur Salomon a un moment dit que les masques ne servaient à rien. Comment est-ce qu'on peut être médecin et affirmer devant toute la France entière avec la responsabilité qu'on a qu'un masque ne sert à rien quand c'est une maladie qui se transmet par voie aérienne. Aucun médecin, enfin, peut-être que j'ai pas de souvenir, mais est-ce qu'il y a un médecin qui s'est insurgé devant ses propos, c'est-à-dire que le masque ne servait à rien, voire était dangereux, potentiellement dangereux. Si à ce moment-là c'était des recommandations de l'OMS, qu'en est-il de l'OMS aujourd'hui? Est-ce qu'on va réagir et se dire que l'OMS peut-être ne sert à rien, voire est peut-être dangereuse? Le gros prochain problème sanitaire, l'OMS va encore nous sortir des inepties de cet ordre-là. Enfin, que fait l'OMS? Parce que tous nos politiques, tout ça, nos médecins, nos têtes pensantes et tout ça, se cachent derrière l'OMS en disant « mais c'était une recommandation de l'OMS ».
Non mais là où vous avez raison, c'est que tout le monde comprend après coup qu'on a réécrit l'histoire des masques à l'aune de notre pénurie. Effectivement,
après coup, je ne suis pas d'accord. On a assez de pontes dans le milieu médical pour dire mais attendez, c'est une maladie respiratoire et vous êtes en train de d'éliminer un, enfin, pourquoi un chirurgien met un masque?
J'entends bien, mais on comprend qu'on a, si vous voulez, je me suis peut-être mal exprimé, on a construit un discours parce que nous n'avions pas de masque. Donc comme nous n'avions pas de masque, on a expliqué que le masque ne servait à rien. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui.
Mais il y a longtemps qu'on l'a compris, mais vous savez, les Français sont très intelligents. Il y a des mois qu'on a compris que ce discours-là était tenu parce qu'on n'en avait pas. Oui, mais de là à dire que ça ne sert à rien. Si on avait dit... On n'a pas de masque, mais on sait que ça va être qu'il faut des masques, mais on n'en a pas. Voilà, on est en pénurie, on n'a pas prévu, etc. Et on aurait dit aux Français commencez à fabriquer des masques. On a bien vu qu'il y avait toute une période là dans l'année où les gens ont commencé à fabriquer des masques. Et mine de rien, ces masques-là étaient quand même une petite barrière à la transmission. Ça, c'est certain. Un masque en tissu, il arrête des postillons. Hein. Faut pas être chimiste, faut pas être physicien pour. Mais s'ils avaient avoué le manque de masques et dire bon ben voilà, on va rectifier, on va faire en sorte que, etc. Le gouvernement serait beaucoup mieux perçu aujourd'hui.
Bon, bah écoutez, merci en tout cas Pascal de cette intervention, et puis on va marquer une nouvelle pause.
Et le fusible.
Ah, Pascal, l'information, la ligne a été coupée au moment où Pascal terminait sa phrase. À tout de suite, il est 13h16. Je salue Greg Caradoni qui est de retour aujourd'hui, donc avec j'attends avec impatience le cadeau, le fameux cadeau de 13h30 qui arrivera avec la chanson de Noël et avec l'auditeur ou l'auditrice qui racontera son Noël. Bonjour Greg.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Et merci
cadeau
à vous.
Cadeau formidable encore aujourd'hui.
Ah, bah, à tout de suite alors.
J'espère que ça vous plaira.
À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Gilles qui est artisan Seine-et-Marne. Bonjour. Et nous évoquons le dossier Salomon, le directeur général de la médecine en France.
Je pense qu'il n'est pas blanc-bleu, mais je pense qu'il a une bonne tête de fusible. C'est-à-dire que je pense que cette décision, ce genre de décision, faut pas me raconter qu'en France, qui est un pays jacobin à l'extrême, ça s'est pris, il a pris ça tout seul dans son coin. Ça me fait un peu penser à l'histoire avec le PDG d'Orange, qui a été mandaté pour faire du ménage, et puis ensuite on le jette au chien. C'est un classique, voilà, je dirais. Donc, que Salomon soit, et une part de culpabilité, c'est probable, mais je pense qu'il est pas tout seul.
C'est pas ce que dit la commission d'enquête du Sénat. Hein. Elle impute directement cette pénurie à la décision prise en 2018 par le directeur général de la Santé de ne pas renouveler le stock de masques chirurgicaux, même si elle est également la conséquence de choix antérieurs tout au long des années 2010. Je vous lis in extenso le rapport de cette commission d'enquête. Donc c'est lui, hein. C'est ce que dit la commission d'enquête en tout cas.
D'accord. Bon, bah, si la commission d'enquête le dit, on peut avoir confiance dans nos politiques pour nous dire la vérité. En fait, on a ça tous les jours. Moi, je suis dubitatif. En fait, je pense qu'une décision qu'engage la sûreté nationale, je suis pas convaincu qu'elle puisse être prise uniquement par un seul type. Je pense qu'elle est prise par un seul type qui, normalement, comme un bon haut fonctionnaire, ouvre le parapluie et demande un aval. Parce que c'est comme ça que fonctionne la haute fonction publique, on protège ses fesses. Donc je pense qu'il va payer, bon, il en faut un, comment ça ça évitera que d'autres payent qui sont plus hauts. Et on pourrait sans doute chercher des responsabilités.
Non, mais c'était convenu que dans la France de 2018, parce qu'aujourd'hui on a les lunettes de 2020, mais les problèmes de masques, c'était un non-problème. C'est-à-dire que c'était un non-problème. Il faut être aussi cohérent.
Gilles. Non, mais j'entends ce que vous dites.
Jamais, je n'ai vu en France des gens porter des masques avant mars ou avril 2020.
Je l'entends, mais je reprendrai une formule que vous employez assez souvent, qui dit « mais quand même, tous ces gens qui sont payés pour utiliser notre argent pour protéger nos fesses, qui nous protègent contre nos excès de vitesse et autres, à quoi ils servent ?» Dans ce cas-là, je vais vous poser cette question-là.
Je n'ai pas le sentiment d'avoir parlé comme ça, mais...
Si, vous posez souvent la question « où passe notre argent ?»
Bah, écoutez, ah oui, ça c'est sûr.
Je la reprends à mon compte, on dépense énormément d'argent au nom de notre protection. Et ça fait partie de la protection, c'est-à-dire de la prévision, et diriger, c'est prévoir. On a visiblement des gens qui prévoient.
Mais je veux bien excuser paradoxalement la première vague. Vous voyez, c'est pas tant ce qui m'ennuie parce que le masque n'était pas au cœur de la société française. En revanche, ce que je trouve incroyable, c'est de vouloir faire pression sur ce rapport d'experts et de vouloir faire disparaître ce rapport d'experts qui date donc de août 2018 quand la pandémie se met en place pour évacuer le fait qu'on n'ait pas suivi les experts. Et ça, j'y vois quand même quelque chose de malhonnête, si les faits sont avérés, qui peut me choquer. Se tromper, c'est une chose, être malhonnête, c'en est une autre.
Mais si vous voulez, moi je me pose une autre question dans les choses qui me surprennent, c'est que des politiques et des hauts fonctionnaires puissent encore penser qu'on puisse garder un secret en 2020. Ça me laisse songeur. Les gens qui vous racontent des salades et qui vous mentent comme des arracheurs de dents avec des trémolos dans la voix et la main sur le cœur, et qui, en gros, il y a tout laisse des traces. Donc il n'y a pas un secret qui reste un secret. Et le croire, c'est d'une naïveté à l'épreuve des balles.
C'est vrai que faire pression en plus, c'est pas malin. Vous avez raison, parce que tout se sait aujourd'hui, c'est la triple faute. D'abord, effectivement, vous faites une erreur. Ensuite, vous n'êtes pas tout à fait honnête. Et enfin, vous n'êtes pas malin parce que tout se sait. Il faut assumer ses erreurs. Bon, ben merci Gilles. Merci beaucoup. Mathéo est là également. Mathéo, qui est un jeune étudiant de Caen et du Calvados, qui nous appelle parfois. Tout va bien, Mathéo, pour vous ?
Très bien, et vous, Pascal ?
Vous n'êtes pas, alors le mot est horrible, hein, vous n'êtes plus en présentiel, vous êtes en distanciel dans les amphis ?
Oui, c'est ça, et puis ce, jusqu'au 5 février minimum, et ça depuis la fin des vacances de cet automne.
Ce qui est incroyable d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas assez des étudiants, parce que comme vous êtes jeune, on ne parle pas de votre cas, mais les étudiants sont complètement largués. J'entends parfois dans le petit matin chez Julien Cellier des auditeurs, des jeunes étudiants qui effectivement ne sont pas en cours et qui sont largués, parce que c'est difficile de suivre en distanciel les cours.
Ah, c'est mon cas. Moi, j'adhère pas du tout. Alors, je vais pas mentir, il y en a pour qui ça va très bien, il y en a qui aiment rester chez eux, mais le fait de pas pouvoir différencier entre université et chez soi, même, je blâme pas du tout les professeurs, mais je comprends que certains profs n'en peuvent plus. Il y a certains profs qui ne font que livrer des PDF maintenant, donc on a que des PDF à lire, un chat qui est mis en place, mais personne n'est dessus. La visio, ça fonctionne une fois sur deux, les infrastructures sont vieillissantes, techniquement parlant, donc c'est pas top non plus pour entendre le cours. Non, on est largué. Vraiment, c'est horrible. Et le lien n'existe plus. Donc, pour une vie d'étudiant, c'est triste.
Vous vouliez évoquer, évidemment, Jérôme Salomon ?
Oui, bah oui.
Et donc, votre sentiment ? Ah, mais il a raccroché, Mathéo. Bah écoutez, on va peut-être marquer une pause, ou on est avec Evelyne encore ? On a le temps d'écouter Evelyne. Bonjour Evelyne, qui habite Perpignan. Oui.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour Evelyne.
Bah, écoutez, j'attends avec impatience l'allocution de Monsieur Castex.
Ah bah, j'ai des petites infos à vous donner.
Ok. Ah
bah, si mes infos sont bonnes, ouverture des cinémas avec couvre-feu 20h. Alors est-ce que la dernière séance serait à 18h pour sortir à 20h? C'était un peu ce qu'on envisageait. Et pareil pour les théâtres. Donc, il y aurait réouverture, mais avec couvre-feu. Est-ce 20h ? Est-ce 21h ? Visiblement, ça me paraît trop tard. Est-ce 19h ou 20h ? C'est possible, ce qui veut dire quand même que les séances de théâtre devraient être assez tôt. Mais c'était la tendance ces dernières heures. Il faut se méfier, parce que parfois, la tendance a changé avant l'allocution, ou avant la prise de parole, en l'occurrence, de Jean Castex. Mais ce serait intéressant quand même si les cinémas rouvraient. Et notamment pour les jeunes, pour de retourner au cinéma dans l'après-midi. Evelyne.
Oui, tout à fait. Bah, écoutez, moi, je plains tout le personnel des spectacles, des cinémas, etc. Et je vois pas l'intérêt de nous interdire d'aller au cinéma avec un siège sur deux, avec le masque, en plus on regarde dans la même direction. Enfin bon, il y a des choses absolument folles, quoi. Non, mais c'est désespérant. Ouais, mais moi, je voudrais parler à partir du 15 décembre. J'espère qu'on va pas nous interdire non plus de fêter Noël. C'est ça, surtout.
Bah, il est possible que, paradoxalement, on nous demande d'être un peu plus vigilants dans la sphère privée, parce que là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gestes barrières, il y a du relâchement. Et en revanche, qu'on ouvre un peu là où, précisément, il n'y a pas de... ou moins de danger. Parce que c'est ça, le paradoxe. Il y a moins de danger d'aller au théâtre ou au cinéma que de faire le 25 décembre en famille.
Mais absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, absolument. Enfin, en tout cas, moi, ils m'empêcheront pas de partir sur Paris, à moins d'être bloqué à l'aéroport, qu'on me demande de ne pas monter dans l'avion, mais j'irai coûte que coûte.
Vous avez pris votre billet ?
Oui, il y a longtemps.
Vous arrivez quand ?
Le 23 décembre, ben, ça fait au moins 4 mois que j'ai mon billet d'avion. Et je reviens le 28, je reste que 5 jours sur Paris, mais je fais ça en famille. Et bon, entre mes enfants, mes petits-enfants, on sera 10 à table. Hein. On sera 10 à table.
Puis, combien d'enfants ?
Enfin, il y a des grands, hein. Il y a 21, 16 ans.
Oui, il n'y a 5, plus d'enfants en fait.
14 ans, 7 ans et 5 ans.
Il y a 2 enfants. Donc il y a 2 enfants et quasiment 8...
Oui, 2 enfants de moins de 12 ans, 14, 21 et 16.
Oui. C'est vrai qu'il faut être vigilant. Mais ouais, là, par exemple, vous allez pas porter le masque le soir de Noël.
Non, oh ben non, il n'en est absolument pas question. Puis je vais embrasser mes enfants, que j'ai pas vu quasiment de toute l'année. Ça a été une année terrible, terrible, terrible pour tout le monde. Donc, non, il n'est pas question. Écoutez, franchement, Pascal, quand j'entends qu'il y a encore 15 000 cas et tout, mais qui nous dit, mais je connais personne autour de moi qui a le Covid. C'est ça qui est terrible. Quand j'en parle aux gens, puisque je promène mon chien et tout, je rencontre plein de gens, je dis, vous connaissez des... Non, personne. Alors, mais ils sont où, ces Covid? Ils sont où? Ils sont où? Pitié, me dites-nous. Et puis,
mais là, c'est les gens qui sont positifs, les 15 000. C'est les gens qui sont déclarés positifs. 13h29, oui, merci, on marque une pause, Evelyne. Et on revient.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va parler de Noël comme tous les jours à cette heure-là et nous sommes avec Charlotte, je crois. Bonjour Charlotte.
Oui. Bonjour.
Et l'idée tous les jours à 13h30, c'est d'abord que vous nous racontiez un Noël qui vous a marqué peut-être.
Un Noël qui m'a marqué, oui. Un des plus beaux Noëls que j'ai passé, c'est avec toute ma famille, mais vraiment toute ma famille à Paris. Et un très très beau moment de partage.
Bon, ben merci beaucoup Charlotte. On va se retrouver tout à l'heure parce que notre Noël et notre souvenir et notre cadeau, c'est François qui est là. François, notre ami d'Orbec.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
Et merci d'être avec nous, racontez-nous, faites-nous pleurer. Ah,
je vais vous faire peut-être pleurer, j'espère, mais moi j'ai pleuré moi. 1999, la tempête du siècle arrive, et pour la première fois, le Père Noël a choisi notre secteur, notre région, pour faire une tournée de contrôle de cadeaux le soir de Noël. La nuit rend impossible la tournée. Le lendemain matin, le Père Noël retourne, pourquoi il ne le sait pas, dans une maison. Il sonne à la porte, deux enfants ouvrent la porte, c'est un enfant de 3-4 ans, une sœur un peu plus grande. Le petit garçon, voyant le Père Noël, se met à faire pipi dans sa culotte par émotion. Et quand le Père Noël demande à voir la maman, ils lui disent « elle n'est pas là, elle travaille ce matin ». Le Père Noël entre dans la maison, téléphone à la maman, la prévient de son passage. Et quand il demande à l'enfant quel cadeau il a eu, devant un petit cadeau vraiment misérable, le Père Noël dans sa voiture avait des cadeaux, il va les chercher, il les donne à cet enfant. Et ça restera pour moi et pour la mère Noël qui m'accompagnait, le plus beau Noël de ma vie.
C'est beau ce que vous dites là, mais pour vous jouiez ce rôle-là, François.
Alors, je vous dis tout de suite, Pascal, d'abord, on ne joue pas le rôle du Père Noël. Le Père Noël est quelqu'un vraiment qui existe. Mais on va dire que j'étais son collaborateur. Mais le Père Noël a tourné pendant 15 ans dans la région. Et il a fait des maisons et des maisons. Et sa plus belle récompense, c'est devant les yeux des enfants quand ils l'arrivaient et qu'ils le voyaient arriver avec la Mère Noël. Bon. Mais ce jour-là a été exceptionnel pour le Père Noël et pour moi, bien sûr, et la Mère Noël aussi.
Bon, et qu'est-ce que vous allez faire ce 24 décembre ?
Alors, ce 24 décembre, on va se retrouver avec des enfants qui habitent très proche de chez nous, qui sont très proches, Laetitia, Guillaume et puis ses enfants. Et on va se retrouver, on va être peut-être 7, nous voyons, on va peut-être pas être 6, on va être 7. Et nous, qui sommes grands-parents et arrière-grands-parents, on mangera pas la bûche dans la cuisine, même si je ferai une photo de moi et de mon épouse dans la cuisine avec la bûche.
Mais c'est la famille, Laetitia, Guillaume.
Ah, Laetitia, Guillaume, c'est la famille, c'est notre famille. Nous avons une famille, je vais vous dire, on a 7 enfants qui sont mariés, on a, je crois, 24 petits-enfants et une 13 arrière-petits-enfants.
7 enfants, 64 ans.
Oui, enfin on va dire que, vous savez, l'avantage, c'est de recomposer des familles et de considérer que les enfants des uns sont les enfants des autres.
D'accord.
Parce qu'ils m'appellent, j'ai la même considération pour eux qu'ils ont pour moi, et tous les petits hauts m'appellent papy, et je vois pas comment je pourrais leur refuser ça.
Bien sûr. Alors quelle est votre chanson, la chanson pour Noël et pour toujours ?
Ma chanson, moi, c'est Vive le vent. Pourquoi ? Parce que dans Vive le vent, il y a un vieux monsieur qui avance avec sa canne, il y a des enfants, il y a une grand-mère, il y a le repas, et il y a la maison et les bougies, et c'est Noël.
Écoutons.
Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans les mains, et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.
Merci au Trade Jazz de Henri Salvador, chez qui on aura reconnu. Merci beaucoup François.
Merci et bonne fête à vous si je ne vous ai pas en ligne après.
Vous allez nous avoir. On est quel jour aujourd'hui? Le 11 décembre. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Il reste encore 14 jours avant le 24.
14 jours. Ouais. J'espère. Mais ça fait du bien de se dire bonne fête. Ça fait du bien.
C'est vrai. Vous avez raison. Embrassons-nous, Folleville. Merci, cher François. Voilà. Vive le vent. Elle est bien cette version-là. Écoutons quelques notes encore.
Chante vers le ciel. De la nuit, oh, vive le vent,
Bah, de quoi ?
Le cadeau !
Allez, cadeau !
Bah oui, quand même.
Mais ah monsieur, oui, cadeau ! Alors, le cadeau, hier c'était formidable, c'était un truc.
Un food truck ?
Un food truck hier.
Waouh !
Ouais.
Eh bien, écoutez, François, vous aviez dit que vous aviez beaucoup de petits-enfants, même d'arrière-petits-enfants.
Mmh. Oui, c'est ça.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez les macomoulages. Ce sont des petites figurines à mouler dans des petits moules. Alors là, en plus, c'est sur une collection d'espèces protégées. C'est du plâtre à mettre dans ces petits moules, laisser sécher, et puis ensuite vous pouvez les peindre, et puis ça fait une belle activité avec les enfants pendant les vacances. Alors certainement les uns après les autres, bien sûr, pour pas être tous en même temps, mais c'est un beau cadeau, un beau jeu qu'on vous offre
un
aujourd'hui.
Beau jeu. Formidable, formidable, formidable. Merci pour eux.
Macomoulage, mais vous vous souvenez de ça? Mais je croyais que ça existait plus, moi, macomoulage.
Vous connaissez le macomoulage, Pascal?
Attendez, mais c'est les jeux
de enfance,
macomoulage, le mécano, le Lego, il y avait ces trucs-là, mais je croyais que c'était mort, macomoulage.
La preuve,
non.
Bah écoutez, je suis très content. 13h38, on marque une pause peut-être parce qu'on est 13h tard, non? Ou on fait maintenant...
Allons-y.
Allons-y.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous étions avec Charlotte et on conduira la discussion sur Noël. Mais tout d'abord, entre 14h et 14h30, Laurent Tessier, que se passera-t-il ?
Un Français sur deux déclare qu'il ne se fera pas vacciner contre la Covid-19. Selon un sondage Elabe, c'est le plus récent. La méfiance ne faiblit pas. Et c'est la question qui revient à la machine à café.
Vous ferez-vous vacciner?
Si vous étiez en Grande-Bretagne et qu'on vous l'avait proposé aujourd'hui, est-ce que vous seriez allé vous faire vacciner, vous?
Vous ferez-vous vacciner?
Le professeur Éric Combes, chef du service infectiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a déclaré ce matin dans Le Parisien sur le vaccin ARN messager de Pfizer, c'est-à-dire à base de matériel génétique. Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables. Les autorités sanitaires britanniques le déconseillent aux personnes qui ont eu dans le passé d'importantes réactions allergiques. Deux personnes ont mal réagi aux premières injections. Pas d'inquiétude à avoir pour l'épidémiologiste Pascal Crépé.
Sur les plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont déjà reçu deux doses de ces vaccins, il n'y avait pas de forme grave. Donc on peut espérer que s'il y a des effets secondaires, ces effets secondaires sont très rares. Il peut toujours y avoir une chance sur un milliard que quelque chose se passe.
Alors on vous repose la question, vous ferez-vous vacciner? Avec nous en studio à 14h, le docteur et infectiologue Robert Sebag.
Et ce sera avec plaisir effectivement que nous pourrons évoquer ce sujet. Charlotte, qui est toujours là, et que je remercie. Charlotte, vous êtes étudiante, vous êtes à Cannes.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez faire à Noël?
Alors à Noël, je vais le passer toute seule avec mon père, malheureusement. Mais je pense que c'est la meilleure solution à adopter pour tout le monde, parce que pour se protéger les uns des autres, on a les nouvelles technologies, malheureusement, là vont nous être utiles pour pouvoir communiquer les uns aux autres et passer les fêtes ensemble sans être réellement ensemble.
Je comprends. Et d'habitude, vous êtes combien à Noël?
Bon, ça dépend.
Mais l'année dernière, par exemple, vous étiez combien, Charlotte?
L'année dernière, on était à peu près 8, 8 ou 9. Donc, ça change, certes. Mmh. Mais comme je vous le disais, on a cette chance d'avoir les technologies, donc de pouvoir se voir malgré tout à travers ces écrans et de partager un moment quand même tous ensemble.
Donc, vous avez prévu un visio avec la famille?
Exactement.
Bon, bah écoutez, ça sera un Noël particulier, bien évidemment, mais un Noël de prudence. Vous souhaitez également la réouverture, je crois, des théâtres et des musées?
Oui, oui, pour qu'on puisse retrouver, avec bien sûr des précautions et que tout le monde les accepte et les suive à la lettre, mais pour qu'on puisse retrouver cette culture, cet accès à la culture, parce que les jeunes comme les plus âgés, on a besoin de cette culture, on a besoin d'aller au cinéma, on a besoin d'aller au théâtre, on a besoin de visiter des musées, pour nous comme pour les personnes qui veulent exposer. C'est important, quoi, cette culture.
Ben effectivement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis plusieurs jours, les cinémas, les théâtres, les musées, et on souligne que ça peut faire partie des choses, des biens, non, mais des choses essentielles. C'est votre avis également, Charlotte?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour qu'on puisse, oui, voilà, cette culture, même pour les artistes. Moi, je pense à plusieurs artistes qui sont très tristes de ne pas pouvoir jouer devant des salles, devant des gens, pour partager un moment tous ensemble.
Ben merci beaucoup, Charlotte. Sur Noël également, Sylvie voulait intervenir, qui est infirmière à Strasbourg. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est votre sentiment sur cette période? Qu'est-ce que vous souhaitez surtout? Qu'est-ce que vous aimeriez que Jean Castex annonce ou n'annonce pas?
Alors nous, on est une région où c'est arrivé chez nous un petit peu plus fort en première vague. On s'est pris la deuxième aussi. Contrairement à Evelyne qui ne connaît absolument pas de cas Covid et qui se demande si ça existe vraiment, je peux bien lui confirmer que ça existe malheureusement. Et je trouve que 14 000 cas contacts, avant-hier c'était 13 000, hier c'était 14 000, on est très loin du compte. Pour moi, réouvrir, c'est une grosse bêtise. Et par contre, je suis assez surprise qu'on ne parle pas des tests. Parce que si les gens veulent fêter Noël en famille, et je pense que c'est important parce qu'il y a des anciennes générations qui me disent, donc c'est des personnes qui ont 80 ans, 85 ans, qui me disent « mais moi, l'année prochaine, je serai peut-être plus là, même pas à cause du Covid, juste parce que c'est mon âge et je veux passer Noël en famille ». Mais pourquoi on ne fait pas juste tester les familles? Il y a des tests antigéniques, il y a des tests en labo, ouais, c'est un coton-tige dans le nez, mais c'est surtout pas la mort. Est-ce que le cadeau de Noël ne serait pas juste de se faire tester, d'être ensemble?
Bah écoutez, là encore, ce que vous dites s'entend. Et beaucoup de gens, j'imagine, trouvent que vos paroles sont sages et prudentes.
bien évidemment. Sylvie, qu'est-ce que vous allez faire vous-même, par exemple, le 24?
Alors nous, on est en Alsace, mais la famille de mon mari est en Bretagne et on aurait aimé les rejoindre en se testant, bien sûr, parce qu'on les voit une fois par an, qu'on a eu des coups durs et qu'on a besoin de retrouver ces liens familiaux, c'est important. Et toutes les personnes âgées que j'ai autour de moi n'envisagent pas de passer Noël tout seul ou sans les petits-enfants. Et contrairement à Charlotte, il y a beaucoup, beaucoup de mes patients âgés qui n'ont absolument pas les tablettes, les ordis, les visioconf et compagnie. Voilà, donc je pense que être raisonnable, c'est bien. Et je pense qu'il faut penser à Noël, bien sûr. Mais le fait de rouvrir là, maintenant, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va reconfiner fin janvier? Et comme dit mon mari, mais là, c'est la mort des restaurateurs, quoi.
Ben merci beaucoup Sylvie, merci pour ce témoignage. En marge de notre émission, Emmanuel Macron est arrivé à Bruxelles. Les dirigeants des 27 se retrouvent pour un sommet alors que la deuxième vague s'accélère dans certains pays en Europe. Le chef de l'État a pris quelques instants la parole juste avant le début de la réunion. Je vous propose de l'écouter.
Nous nous retrouvons alors même que cette deuxième vague se réaccélère dans beaucoup d'endroits en Europe, avec des situations très critiques à la veille des fêtes. Nous sommes tous en train de prendre les décisions requises pour protéger Noël et les fêtes de famille et pour éviter que l'épidémie ne reparte encore de plus belle. Et donc cette coordination européenne sera l'objet des réunions d'aujourd'hui, mais aussi coordination en matière de vaccins, comme nous le faisons depuis le premier jour, pour acquérir, produire et distribué de manière ordonnée entre les pays européens.
Merci. Merci beaucoup.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et nous allons changer de sujet puisque le gouvernement a défendu hier son projet de loi controversé sur le séparatisme. Vous le savez, la présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Madame Aurore Berger, a dit travailler à un amendement pour interdire le port du voile aux jeunes filles, même si Monsieur Castex a d'ores et déjà fermé cette porte. Alors nous sommes avec Bouaza qui est en Haute-Marne et qui nous a contacté par Facebook. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Tout d'abord, je suis vraiment ravi que vous nous donniez la parole.
Je vous en prie.
Et voilà, je trouve que vos analyses très pertinentes.
C'est gentil.
Voilà, donc moi, personnellement, je trouve que c'est une fausse bonne idée.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que le voile, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème pour la société française. On a toujours vécu...
Là, c'est pour les petites filles, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'une petite fille de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans doit être couverte des pieds jusqu'à la tête? Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le sujet.
Vous en voyez beaucoup, Pascal, entre
non.
vous
non,
et
non,
moi
Non, je n'en vois pas.
Bon, voilà, donc déjà, on est d'accord. Donc, moi, pour moi, c'est FBI, fausse bonne idée. Pour moi, on n'a pas imposé à des gens leur façon de s'habiller... Comprenez, moi, je pense que le problème, c'est plus d'ordre éducatif. Il faudrait une réflexion globale sur le vivre ensemble. Voilà, tout simplement. Parce que je trouve qu'on a énormément de mal à s'accepter en France.
Tout ça, j'entends, mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de préciser forcément notre question sur le voile pour une petite fille. Est-ce qu'une petite fille doit porter le voile à l'école?
C'est écoutez, ça. Moi, à partir du moment où c'est dans le cadre à l'école. Mais moi, j'ai jamais vu à l'école.
Vous avez raison d'ailleurs. C'est pas tant à l'école, mais ça peut être, comment dire, dans la vie de tous les jours, dans une sortie scolaire.
Écoutez, moi, dans la vie de tous les jours, ça ne me dérange strictement pas.
À 5 ou 6 ans. C'était ça, ou 8 ans, ou 9 ans, une jeune fille.
Bah écoutez, à partir du moment où c'est accepté, que c'est dans le cadre familial, moi je ne vois pas en quoi ça gêne.
Mais voisin, moi je ne suis pas là pour le coup pour vous apporter la contradiction. Je suis là pour écouter votre avis et, l'entendre.
Mon avis, je vous l'ai donné.
Oui, c'est bien sûr.
Que pour moi, ça ne me gêne pas.
Alors Abdelatif est là également, qui habite dans les Pyrénées. Bonjour Abdelatif, votre sentiment?
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Mon sentiment, c'est de poser la question, encore une loi, depuis 1984 et depuis la première affaire du foulard qu'on a qu'on appelle communément le foulard islamique, il y a eu tellement de lois qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Si je veux être provocateur, je vais dire quels sont les deux pays au monde qui légifèrent sur la manière vestimentaire de, ses citoyens, de leurs citoyens. La réponse est l'Iran et l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'en France, on veut être ce troisième pays qui va imposer ou pas imposer comment on va s'habiller? On est passé par le foulard, par le burkini, par plein de choses, et aujourd'hui c'est le foulard des petites. Mais une fois j'ai dit ça, ben, je n'ai pas fini mon propos, dans la mesure où je trouve, je pèse mes mots, hein, que pour ces musulmans qui mettent le voile des petites filles de 4-5 ans, est-ce qu'ils le font par ignorance? Je pense que c'est ça. Ou ils le font par tradition? Parce que j'ai cherché et recherché partout, dans les écrits musulmans islamiques, je n'ai pas trouvé quelque chose qui impose quoi que ce soit à un enfant. Un enfant chez les musulmans, c'est quelqu'un qui est exonéré de tout, exempté de tout. Pas de prière, pas de ramadan, et encore moins le foulard. Déjà le foulard pour chez les adultes, il y a aujourd'hui opposition entre ce qu'on appelle les imams du monde entier, où il y en a qui disent c'est une obligation, d'autres disent que non. Et bien que, disons, soi-disant qu'il est obligatoire, dans un écrit que moi je n'ai pas encore trouvé, que j'ai cherché, où est-ce qu'on met le foulard dans le comportement d'une musulmane ou dans les obligations d'une musulmane? Moi je le mettrais vraiment à la traîne. Le plus important chez un musulman ou une musulmane, ce sont d'abord les relations humaines, ce sont d'abord les relations avec autrui, c'est autre chose que ce fichu foulard qui nous emmerde, excusez-moi le terme, et je me précise de tout le monde, depuis 30 ans. Il y en a marre de ce foulard-là, il y en a marre.
Et parce que Abdelati, vous êtes un musulman, sans projet politique derrière. Certains utilisent le voile comme un instrument politique. Ils veulent changer notre société. Vous êtes un croyant qui pratique sa religion comme chacun doit la pratiquer, c'est-à-dire qu'à l'écart du monde civil, si j'ose dire, dans la mosquée, dans le cadre familial, etc. D'autres veulent imposer un code de vie et veulent régenter nos vies, et veulent décider ce qu'on mange, qui nous voyons, ce que nous écoutons comme musique, etc. C'est ce qu'on appelle l'islam radical.
Exact. Non, je suis d'accord avec vous. Cette loi, si demain, cette loi, si elle passe, heureusement que le Premier ministre a eu l'intelligence de mettre une fin de non-recevoir, elle va concerner 1% des musulmans en France. Ce n'est même pas 1% de la population française, 1%. Peut-être moins d'1% des musulmans en France. La relation que l'on doit avoir en tant que musulman, c'est une relation verticale avec le Créateur. Elle n'est pas horizontale. Elle n'a pas à être étalée sur la voie publique. Je vais même dire que les gens qui voient leur petite fille de 12 ans, de 4 ans et même 12 ans, je vais dire que c'est des gens qui cherchent la piété à travers leurs enfants, ce qui est une imbécilité extraordinaire. La piété, c'est pas à travers les enfants, par procuration.
Merci Abdelatif, merci vraiment. Alors j'ai été très sensible à ce que vous avez dit Abdelatif, et je pense que les auditeurs d'RTL également, parce que c'était des propos pleins de sagesse, de tolérance, de bienveillance, et nous en avons tous besoin. Merci également à Bouaza, merci à Greg Canoni pour cette première heure. Mais il reste une deuxième demi-heure, et monsieur Olivier Bois est en train de faire son entrée dans le studio avec ce pull de Noël. Magnifique.
D'ailleurs, vous ne devez pas en porter un, Pascal.
Je ne sais pas si on va nous en envoyer ou pas.
C'est vrai. Vous en avez commandé un, quoi, avec un cerf brodé dessus, quelque chose comme ça, non?
Christelle Rebière, en réalité, Olivier,
elle
a demandé aux auditeurs...
Mais je pense que personne, tout le monde s'en fiche.
D'envoyer des pulls de Noël pour Pascal.
Allez, une pause, le journal, et puis nous parlons du vaccin. Est-ce que vous ferez vacciner? À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
14h pile. Olivier Bois, le flash.
Emmanuel Macron s'alarme de situation critique à l'approche des fêtes de Noël, référence à l'épidémie qui progresse à nouveau un peu partout en Europe. Il est en ce moment au Conseil européen. Déclaration donc inquiète du président, alors qu'à 18h tout à l'heure, Jean Castex donnera une conférence de presse. Il pourrait décaler la réouverture des théâtres et des cinémas initialement attendus pour mardi. Le couvre-feu pourrait être avancé. Les hypothèses sont évoquées. Réponse donc ce soir. 14 000 cas ont été détectés hier en 24 heures. ces chiffres qui sont en hausse. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, mis en cause par la commission d'enquête du Sénat sur la première vague. Il est reproché à celui qui est numéro 2 du ministère de la Santé d'avoir décidé seul de ne pas renouveler les stocks stratégiques de masques alors qu'il en avait, il avait été averti en 2018 d'un risque de pénurie. Google et Amazon sanctionnés par la CNIL qui protège en France nos vies privées sur Internet. 100 millions et 35 millions d'euros d'amende respectivement contre les deux géants américains. La CNIL leur reproche de ne pas être assez clair sur les informations qu'ils collectent et qui leur permettent ensuite d'adapter les publicités qu'ils nous proposent. Football, le trophée des champions cette saison qui opposera le PSG à Marseille aura lieu le 13 janvier 2021 à Lens. Et puis le quintet à Vincennes à l'instant, arrivé provisoire, le 5, le 11, le 6, le 8 et le 3.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et je le disais entre 13h et 14h, la tendance, mais il faut se méfier puisque c'était des informations du matin, la tendance à l'Élysée, c'était de dire que cinéma et théâtre rouvriraient avec un couvre-feu. Voilà les informations que j'avais pu glaner en fin de matinée auprès de l'Élysée. Simplement, parfois les choses changent.
C'est ce que disait Marie-Bénédicte Allaire, elle disait que le président de la République pouvait changer d'avis jusqu'au dernier moment.
Exactement.
C'est pour ça qu'on reste prudent dans les annonces qu'on fait.
Vous avez parfaitement raison. Monsieur Tessier va nous présenter évidemment le programme de la prochaine demi-heure. Et je salue déjà Robert Seba, qui est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes vous travaillez avec Eric Combe.
Tout à fait, c'est mon chef de service.
Eh bien, vous nous direz ce que vous en pensez. Et vous êtes venu en vélo de la Salpêtrière. Donc il y a à peu près 5-6 km, j'imagine.
Un peu plus.
Un peu plus. Bon. Du 13e arrondissement jusqu'à Neuilly.
Il fait froid et sec, donc ça va. Quand il pleut pas,
c'est... Laurent Tessier.
Un Français sur deux déclare qu'il ne se fera pas vacciner contre la Covid-19 selon un sondage Elabe. C'est le plus récent. La méfiance ne faiblit pas. Et c'est la question qui revient à la machine à café.
Vous ferez-vous vacciner?
Si vous étiez en Grande-Bretagne et qu'on vous l'avait proposé aujourd'hui, est-ce que vous seriez allé vous faire vacciner, vous?
Vous ferez-vous vacciner?
Le professeur Eric Combe, chef du service infectiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a déclaré ce matin dans le Parisien sur le vaccin ARN messager de Pfizer. Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables. Mais c'est quoi au juste l'ARN messager?
On va injecter dans l'organisme des brins d'instruction génétique appelés ARN messager qui fournissent aux cellules une sorte de mode d'emploi pour fabriquer des petits morceaux de virus inoffensifs. Et une fois créés, eh bien ces protéines vont être détectées par le système immunitaire et lui permettre de s'entraîner à détruire le vrai virus s'il arrive un jour dans notre corps.
Les autorités sanitaires britanniques déconseillent le vaccin de Pfizer et BioNTech aux personnes qui ont eu dans le passé d'importantes réactions allergiques. Deux personnes ont mal réagi aux premières injections. Alors on vous repose la question la plus posée en ce moment dans le monde des médias.
Vous ferez-vous vacciner?
Réponse de Marion Maréchal, invitée hier matin de RTL avec Alba Ventura.
Non, je ne pense pas. Pas
Pourquoi
dans l'immédiat.
Parce vous êtes méfiante?
Je ne suis pas une personne à risque déjà. Et puis j'attendrai aussi de savoir réellement ce qu'il en est de ces vaccins. Je pense qu'on a le droit aussi de laisser le temps prouver que ces vaccins sont efficaces et sûrs.
Et Ségolène Royal, que va-t-elle faire?
Oui, je me fais vacciner. Mais je comprends ceux qui posent des questions, qui sont réticents. Je les comprends.
Parole justement à Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, chez nos confrères de RMC. Se méfie-t-il du vaccin?
Pas en l'état actuel, parce que je ne suis pas un cobaye. Je me range, moi, à l'avis d'un grand scientifique, Axel Kahn. Il a dit pourquoi pas le vaccin? Il n'est pas anti-vaccin. Mais en revanche, les deux vaccins ARN et les deux autres adénovirus sont des vaccins qui n'ont jamais été expérimentés sur l'homme. Et nous n'avons aucun recul.
Ah bah ça tombe bien, le professeur Axel Kahn, médecin généticien, était l'invité de RTL Soir cette semaine. Il en pense quoi vraiment du vaccin?
Dès que le vaccin sera disponible en France, je me ferai vacciner. Je me ferai vacciner par le vaccin ARN. Car je ne vois pas de raison théorique pour lesquelles ce vaccin ARN puisse être dangereux. Les sornettes qui sont sorties en disant que ça va modifier les génomes, c'est des gens qui sont ignares.
Et quelles sont les fake news qui circulent autour du vaccin ARN messager?
Confusion entre ARN et ADN. Nombreux sont ceux à penser que cet ARN va transformer nos cellules et faire de nous des mutants. Mais autant vous le dire tout de suite, nous ne deviendrons pas des OGM, nous n'allons pas nous transformer en soja sur pâte.
Eh bien nous voilà rassurés. Avec nous en studio, le docteur et infectiologue Robert Sebag.
Et je le salue. Bonjour monsieur Sebag.
Bonjour.
Bonjour. Évidemment c'est la phrase d'Eric Combe avec qui vous travaillez, c'est votre chef de service, disiez-vous. Cette phrase elle est terrible. Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin. Donc évidemment, quand tu entends cela, que tu es de l'autre côté du poste, tu te dis « je ne vais pas y aller
». Je pourrais vous dire « joker » parce que c'est mon chef de service, mais je ne vais pas vous dire, je vais vous répondre. Quand on regarde effectivement La FDA, hein, puisque c'est la FDA. Aujourd'hui, il y a eu
aucune... C'est quoi la FDA ?
La Food and Drug Administration, c'est l'autorité sanitaire américaine, c'est l'équivalent de l'Agence européenne du médicament. Puisque le dossier Pfizer-BioNTech a été remis à la FDA, donc ils ont les 4000 pages, c'est énorme, un dossier d'enregistrement, c'est énorme. Et donc, ils ont relevé, effectivement, factuellement, ce qui est arrivé sur... Il y a eu 43 000 personnes, mais sauf que la moitié seulement était vaccinée, puisque l'autre moitié, c'est le principe d'une phase 3, et c'est du placebo. Donc, sur les quelques 20 000 personnes, ils ont relevé des douleurs au point d'injection, quelques fièvres, des douleurs articulaires, un certain nombre de choses, pas de phénomène allergique. C'est intéressant, hein, en tous les cas, dans les 20 000, puisqu'on a eu deux cas hier en Angleterre, dès le deuxième jour de la vaccination. Donc c'est vrai que c'est pas 3-4%, c'est vrai quand on regarde de près, certains c'est 40%, 30%, lorsqu'on ne sait pas. Plus souvent chez les sujets jeunes que chez les sujets âgés, et plus souvent après la deuxième injection qu'après la première injection. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps ça dure, est-ce que c'est régressif ce genre de douleur. Certains ont dû prendre des antipyrétiques ou des antidouleurs, donc ça c'est une réalité. Donc quand vous êtes scientifique, si vous voulez, ou vous cachez, vous dites non, c'est très bien, c'est formidable, l'ARN, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. C'est une première fois. C'est la première fois qu'on vaccine des humains avec cette technologie. C'est une technologie particulière. D'habitude, les vaccins, c'est quoi? Vous prenez un virus, c'est le vaccin chinois d'ailleurs, vous prenez un virus, vous l'inactivez, ça veut dire qu'il n'est plus pathogène, on vous l'injecte, mais il garde ses propriétés antigéniques, c'est-à-dire de se comporter comme un corps étranger, vous allez former des anticorps, et puis ça va vous protéger. Ça, c'est le vaccin traditionnel. L'ARN, c'est quelque chose de complètement différent. Mais vous savez, on dit que l'ARN, mais le virus, c'est un ARN aussi. Hein, ce fameux Covid-19, c'est aussi de l'ARN qui rentre dans votre organisme.
Vous avez un peu dévié. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase d'Éric Combes, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous n'avez jamais eu autant d'effets indésirables? C'est ça qui m'intéresse.
Alors, il y a des
parce
effets...
Parce que certains disent non...
Dans beaucoup de vaccins, vous avez des effets indésirables. Là, si vous voulez, on a quelque chose de factuel. Oui. Ça ne veut pas dire que
mais
ce vaccin
qu'il y en a plus
est dangereux.
Non, mais qu'il y en a
il semblerait, en termes de pourcentage, qu'il y en a un peu plus qu'ailleurs.
D'accord.
Point,
bon.
Mais ce n'est pas rédhibitoire.
Alors, j'entends bien. Mais convenez que quand Éric Combes dit cela, avec le poids qu'il pèse dans la communauté scientifique... Puisqu'on l'entend depuis 10 mois, et qu'il n'y a pas un médecin qui dit la même chose depuis 10 mois, et que nous-mêmes, les patients, si j'ose dire, on est confrontés à prendre des décisions avec des gens qui disent jamais la même chose, bah on ne sait plus sur quel pied danser. Mais on continue d'en parler, et vous, surtout, vous allez en parler avec les auditeurs.
Avec grand plaisir.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et il est 14h10 et Robert Sebag est avec nous, il est infectiologue, je le rappelle, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et il travaille avec Éric Combes. Nous sommes avec Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour Monsieur Pro, bonjour Monsieur Sebag.
Bonjour.
Monsieur Sebag, je pense que j'ai eu souvent affaire à vos références parce que j'étais déléguée médicale dans un laboratoire de vaccins et que j'ai toujours défendu les vaccins bec et ongles, que je suis persuadée que c'est une avancée extraordinaire, qu'une pédiatre africaine m'avait dit si seulement on pouvait avoir autant de chance que vous en avez pour sauver nos enfants. Le problème qui se pose actuellement, c'est ce vaccin Covid-19. Et je me dis quand même que si moi, quand je travaillais, j'avais dû présenter un vaccin pour lequel il n'y avait aucune publication scientifique et un recul de 6 mois, je me serais fait sortir par la peau des fesses.
Je ne peux qu'approuver ce que vous dites. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de publication scientifique. Ça a d'ailleurs été un des commentaires. Il y a une publication scientifique sur le vaccin adénovirus Covid d'AstraZeneca. Donc là, il y a eu une discussion entre différents pairs. Aujourd'hui, les seules informations que nous avons sont les informations de la FDA, de la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui nous donne factuellement ce qu'il a trouvé dans le dossier qui a été remis par Pfizer. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Il va y avoir des publications. Alors, en termes de recul, ce qu'on sait, et vous le savez si vous connaissez bien le monde des vaccins, ce qu'on sait, c'est que les effets secondaires graves, en général, ils arrivent au bout de 2 à 3 mois. On a déjà ce recul. On n'a pas un recul de 6 mois, c'est vrai. Mais pour beaucoup de vaccins...
Effets graves?
Vous pouvez, ce qu'on a remarqué dans des effets vraiment liés au vaccin, vous avez une maladie qui s'appelle la maladie de Guillain-Barré, qui est une sorte, oui attendez, ça qui est régressive,
oui.
Dans très très, mais non, ça, c'est arrivé. c'est pas anodin. Le vaccin, c'est comme un médicament, vous avez des effets secondaires. La problématique du vaccin, c'est que vous vous adressez à des personnes saines. Quand vous avez un cancer, on vous donne un anticancéreux, vous allez perdre vos cheveux, vous allez avoir... Vous acceptez, parce que... Bon, là, vous êtes en pleine forme, on va vous faire une injection, et il est possible que vous ayez un effet secondaire mineur. Majeur, il y en a très très peu. En général, ils sont régressifs. Mais ça existe, c'est décrit dans la littérature. Voyez. Par contre, ce qui a un tout petit peu entraîné la suspicion, au-delà du Covid sur le vaccin... En France en particulier, ça a été l'hépatite B et la sclérose en plaques. Ça a été l'aluminium dans les vaccins et les myofascites à macrophages avec des douleurs qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement et qui est un problème purement franco-français. En Angleterre, ça a été l'autisme avec le vaccin contre la rougeole et on en a payé un prix très très cher des enfants. Donc ça aussi, ça a entretenu une certaine suspicion.
Nous sommes d'accord. Alors le recul, la maladie, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une infection rare dans laquelle le système immunitaire du patient attaque les nerfs périphériques.
Tout à fait.
C'est pas neutre quand même.
Non, c'est pas neutre, vous avez, mais donc... c'est complètement. Oui, mais moi j'en ai vu, on en a vu.
Quand et vous dites ça, régressif, c'est quelque chose c'est de connu. Ça disparaît. Donc vous l'avez pendant quelques...
Non mais attendez, même Arnaud Fontané l'a dit sur une autre radio, mon collègue de l'Institut Pasteur, il y a des cas extrêmement rares et certains peuvent être vous entraîner en réanimation, mais dans 90% des cas, c'est régressif.
D'accord. Salim est avec nous, bonjour, vous habitez Bois d'Arcy et vous pouvez poser une question à Monsieur Sebag qui vous écoute. Bonjour Salim.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. J'ai une question. Quel est l'âge minimum pour le vaccin et l'âge maximum? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque à donner le vaccin aux enfants? Et est-ce que, par exemple, une personne âgée, on peut lui donner le vaccin, même si elle n'a pas le Covid, que malheureusement, si elle a des effets secondaires, est-ce que ces effets secondaires peuvent pas nuire à ces personnes?
Alors, dans ce que nous avons comme résultat du vaccin Moderna et du vaccin Pfizer, il a été administré à des personnes d'un âge relativement avancé, bien après 65 ans. Apparemment, il n'a pas montré une baisse d'efficacité. On pouvait se poser la question, parce qu'on sait, si vous voulez, qu'en vieillissant, le système immunitaire est moins compétent. On l'a vu sur la grippe, par exemple. Là, a priori, il n'y a pas eu de différence en fonction de l'âge.
Donc on peut se vacciner jusqu'à 90 ans. D'ailleurs, Margaret, elle avait 90 ans.
La question qui se pose, par exemple, dans les EHPAD, et là, il faut être extrêmement clair. On demande le consentement éclairé. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas toutes leurs facultés pour décider de dire, on va leur dire, voilà, vous risquez d'avoir tel effet secondaire. Savoir s'ils sont allergiques, puisque l'allergie va poser un problème. On l'a vu en Angleterre, donc on va passer à qui? Il va falloir un référent familial. On va dire à la fille ou je sais pas ou au fils, on va dire voilà, votre maman, elle est pas capable de décider d'elle-même. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que vous donnez l'autorisation pour qu'on la vaccine?
Après, si les personnes... Et l'âge minimum, parce que c'était minimum et maximum, demandait Salim.
À ce jour, si vous voulez, alors il va falloir regarder de près les résultats, combien au-delà de 80, 85 ans, et on sait que c'est les personnes quand même qui payent le plus lourd tribut à cette maladie. À ce jour, il n'y a pas une contre-indication majeure et il n'y a pas une baisse d'efficacité en fonction de l'âge. Mais là aussi...
L'âge minimum, pour commencer.
Alors, on a dit pas les enfants.
D'accord.
On a dit 18 ans. Pourquoi?
Avant 18 ans, on ne vaccine pas.
Non, on ne va pas vacciner. On aurait pu dire ce sont les jeunes qui transmettent. Et donc, peut-être inverser les priorités. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on sait que ces vaccins, aujourd'hui, on n'a pas l'information... Ils évitent d'avoir des cas graves, mais on n'est pas certain qu'ils empêchent la transmission.
D'accord.
Et c'est pour ça, s'ils empêchaient la transmission, on pourrait dire qu'il faut vacciner aussi les jeunes.
La pub et on continue, dernière partie. Vous pouvez poser des questions à Monsieur Sebag, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Encore quelques minutes avec le docteur Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous sommes avec Amine. Bonjour Amine.
Oui, bonjour.
Là, vous allez vous faire vacciner.
Oui, tout à fait. Alors moi, je compte me faire vacciner à nouveau parce que j'ai été infecté du Covid-19 cet été. J'ai travaillé en job d'été à l'hôpital et c'est là-bas où j'ai attrapé le virus. Et j'ai pas envie d'avoir le virus une seconde fois. Alors j'entends souvent que le vaccin sera réservé pour une population à risque. Moi, je pense que la population à risque, c'est un peu tout le monde parce que la preuve, des jeunes comme moi ont eu le coronavirus. Mais c'est vrai qu'en écoutant le docteur, là, je pense que je vais quand même réfléchir à deux fois avant de faire le vaccin parce que j'aimerais savoir déjà, s'il vous plaît, docteur, quels sont les effets d'abord du vaccin, les effets indésirables, et surtout, vous avez dit que c'était pas un vaccin où on transmettait des anticorps, me semble-t-il, mais c'était un vaccin d'ARN. C'est quoi la différence avec ce nouveau vaccin qui est un vaccin, vous nous avez dit, exceptionnel?
Si vous voulez, d'habitude, la technologie traditionnelle des vaccins, c'est de prendre le virus ou la bactérie, de l'inactiver. Vous l'inactivez, donc elle est inoffensive, elle ne va pas entraîner la maladie, mais elle garde son pouvoir de corps étranger, donc ce qu'on appelle le pouvoir antigénique. On vous l'injecte et vous faites des anticorps. Et donc ça, c'est le germe, si vous voulez, qu'on vous injecte, mais le germe atténué. D'accord. Avec la technique ARN, c'est complètement différent. On prend une des protéines de ce virus, qui est la protéine S. Vous savez, c'est celle qu'il y a sur les petites épines quand on regarde le dessin du coronavirus. On l'a synthétisé, puis on le met dans un brin d'ARN, qui est l'acide ribonucléique, qui n'entre pas dans le génome. Et on injecte cet ARN qui est enveloppé d'une petite capsule lipidique. On vous l'injecte, ça va dans la cellule. Et dans la cellule, cet ARN qui va coder cette protéine S, cet antigène, qui va se multiplier et il va être détruit très très vite, l'ARN. Et il ne rentre pas dans le noyau et il n'entraîne pas de troubles génomiques, si vous voulez, au niveau de la descendance, comme ça a pu faussement être dit.
Bon, même si M. Sebag fait un grand effort de pédagogie, il n'empêche que des gens comme moi sont un poil largués, je l'avoue bien humblement.
C'est votre organisme, l'anticorps. Oui. Mais attendez, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura plusieurs vaccins avec des technologies différentes. Et si on veut être honnête de la part des autorités, on aura des résultats avec des publications scientifiques et on dira pour vous, monsieur, vous avez 50 ans, vous n'avez aucun antécédent, ça sera ce vaccin. Pour vous, madame, vous avez 90 ans, ça sera ce vaccin. C'est bien d'avoir différentes technologies et on aura des résultats.
On commence quand avec le Pfizer?
Ben écoutez, on attend fin décembre l'autorisation de l'Agence européenne du médicament, qui est l'équivalent de la FDA dont
nous
on a parlé aux États-Unis.
Et après, on peut y aller.
Et là, parce
donc 15 janvier...
Alors, attendez, ça, c'est au niveau européen. On va avoir quand même le dossier. Vous avez en France l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est l'agence nationale, pas européenne, qui va quand même regarder le dossier et les recommandations de l'agence européenne. Et vous avez le comité technique de vaccination.
15
ça va très
janvier.
Vite, ça. Oui.
15 janvier, vous pensez qu'on peut y aller?
Avec tous les problèmes de logistique que ça pose.
Bon, et à ce moment-là, si on se fait vacciner après, parce qu'Olivier Véran n'est pas clair là-dessus, on pourra supprimer, celui qui s'est vacciné, il peut supprimer son masque?
Alors, c'est bien la différence entre éviter d'avoir des problèmes graves, c'est-à-dire d'une décompensation respiratoire, et de transmettre. Et la question qui se pose, aujourd'hui on n'a pas la réponse, est-ce qu'il empêche la transmission, le portage du virus?
On ne le sait pas.
Non.
Donc masque encore.
Oui, exactement.
Le vacciné porte le masque.
Pourquoi? Parce que autant vous avez, quand vous avez le virus, en particulier au niveau pulmonaire ou dans d'autres organismes, le système immunitaire marche. Par contre, si votre virus, comme on le sait, il est très souvent au niveau des muqueuses nasopharyngées, et là le système immunitaire est beaucoup moins fort, et vous pouvez être toujours porteur du virus.
Je trouve ça incroyable qu'on ne le sache toujours pas, mais bon, je suis un béotien, mais je trouve incroyable qu'on mette un vaccin, on ne sait même pas si on peut y transmettre ou
Non, mais il empêche quand même les formes graves. Il est efficace, mais
c'est le moins
sur la transmission...
C'est le moins qu'on attend d'un vaccin, quand même.
Sur la transmission, vous avez raison. Vous avez raison. Bon. On n'a pas de résultats sur la transmission et le portage du virus.
Aujourd'hui, puisque vous êtes là, ce virus, il est dans les airs, essentiellement.
Non, il est porté par quelqu'un. Il peut être dans l'air, là, en aérosol. Mais il est transporté. C'est un individu qui porte le virus et qui contamine.
Nous sommes d'accord. Mais faut davantage faire attention à la bouche et au nez,
les
ou
deux.
Aux mains toujours.
Les deux.
Les mains,
les deux.
Mais est-ce qu'on le sait, ça? Est-ce qu'on sait, après 9 mois, si c'est davantage par les mains que davantage par les nez?
Les deux, ça dépend des surfaces, ça dépend de ce que vous avez touché, votre nez. Et imaginez que les gens, souvent, ils enlèvent leur masque, ils se frottent un petit peu. Ils peuvent avoir du virus sur les mains. Le mettre sur une table, pendant un moment, si la table est humide, il va rester. Vous allez vous...
Donc gel hydroalcoolique, etc.
Manuporté et également au niveau respiratoire. D'où le masque et le gel hydroalcoolique et se laver les mains.
Bon, et à ce moment-là, il y a 100% protégé.
Oui. On est protégé si on l'a bien porté, si on s'est lavé
donc,
les mains.
Donc théâtre, cinéma, là où il
Y a... Non, mais moi je pense que si on respecte bien les gestes...
Il n'y a aucun souci.
Les gestes barrières, bien sûr, mais on a peur...
En fait, le paradoxe, c'est qu'on devrait, dans la sphère privée, être infiniment plus prudent, faire de dîner,
Attendez,
c'est ça qu'on devrait faire.
Vous avez raison, les contaminations intrafamiliales sont extrêmement importantes.
Voilà, donc si on était raisonnable, on devrait être extrêmement vigilant sur nos dîners ou nos déjeuners, et en fait déjeuner ou dîner avec personne, parce qu'on
enlève
son
masque.
Exactement, et en revanche, on pourrait aller au ciné, au théâtre, dans le métro, etc.
Une personne sur deux, si on ventile bien les milieux clos, si on garde le masque en permanence, si on ne se met pas à crier et à chanter et à s'embrasser, oui.
Bon, bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes très rassurant et très pédago. Et ça nous plaît. 14h25, Greg, un mot ?
Oui, on peut, alors on va pouvoir prendre Bruno.
Ah, Bruno, on a le temps de prendre Bruno.
On a encore une petite minute.
Oui. Allez, une minute avec Bruno. Bruno, très rapidement, oui, une question. Bonjour.
Bonjour. Donc moi, je suis pour le vaccin à 200%, puisque la problématique, si on ne s'est pas vacciné, on va traîner cette saloperie pendant des années. Et en fait, l'argent et tous les gens qu'on va mobiliser pour trouver des vaccins ou des médicaments, ils vont être mobilisés pour cette maladie et on va forcément oublier d'autres maladies chroniques telles que le diabète ou des maladies comme le cancer. Et je crains qu'on ait un contre-coup après Covid. Et le contre-coup sera d'autant plus, on va dire, méchant que si on laisse trop longtemps ce virus nous envahir.
Eh bien, je crois que M. Sebag valide ce que vous venez de dire. Alors
vous avez mille fois raison, monsieur. Notre crainte, nous, c'est la mortalité différée liée à d'autres pathologies que le Covid. Dans mon service, il y a les VIH, il y a les tuberculoses, il y a toutes les infections respiratoires autres que le Covid. Et là, on a retardé un certain nombre de choses. Les gens n'osent plus venir à l'hôpital à cause du Covid. Et donc, moi, je suis très, très inquiet, sans parler de mes collègues oncologues, qui, eux, sont encore beaucoup plus inquiets que les infectiologues.
Merci, Bruno. Et je remercie M. Sebag, 14h26. Dans une seconde, nous revenons.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.